Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Philippe David.
C'était il y a 40 ans, le 5 juin 81, le Centre de contrôle des maladies d'Atlanta décrivait des pneumonies rares chez des personnes jeunes et homosexuelles. Il s'agissait en fait des premiers cas de sida. Nous sommes en compagnie de Michel Bourelli, co-auteur avec Olivier Morel du livre « Une histoire de la lutte contre le sida » publié au Nouveau Monde. Michel Bourelli, bonjour.
Bonjour.
Donc, le 5 juin 81, le CDC relate 5 cas observés entre octobre 80 et mai 81 dans 3 hôpitaux de Los Angeles. Les malades sont des hommes jeunes, entre 29 et 36 ans, tous homosexuels, sont atteints de pneumonie à pneumocystis carini qui, d'ordinaire, ne provoque pas de troubles sérieux, sauf chez les personnes immunodéprimées. Ils ont aussi des champignons, et ils ont tous utilisé des poppers, et on soupçonne ces derniers.
Oui, effectivement, quand on fait une étude à partir de cas d'observations, il faut mettre un peu tout ce qui rassemble ces personnes. Et effectivement, on trouvait dans ce qui rassemblait ces personnes qui étaient atteintes par une immunosuppression, l'utilisation de poppers, ce qui était aussi quelque chose d'assez courant chez les homosexuels de l'époque. Donc du coup, ce n'était pas quelque chose qui était discriminant dans le sens où ça pouvait faire des différences. Beaucoup de personnes l'utilisaient. On le retrouvait aussi chez personnes qui étaient immunodéprimées et qui avaient un pneumocystis.
Alors justement, 2 jours plus tard, le professeur Willy Rosenbaum, c'est en France, qui fera partie des découvreurs du virus du sida, reçoit en consultation un steward qui présente des symptômes similaires. 2 semaines plus tard, le diagnostic de pneumocystose est confirmé. Est-ce que c'est le premier cas en France, Michel Bourelli ?
Alors, en tout cas, le professeur Rosenbaum a reçu ça. Il recevait le journal qui relatait cet article et ces cas particuliers à Los Angeles. Il fait le constat que ça correspond exactement à la même chose. Dire que c'est le premier cas, c'est un peu difficile. C'est le premier cas qui a été constaté, mais très certainement, il y avait d'autres cas, d'autres personnes qui n'avaient pas consulté et qui avaient certainement été en contact avec le VIH, qui s'appelait pas VIH à l'époque, avant celui-ci.
Alors justement, le 4 juillet, un mois plus tard, nouvelle alerte du CDC, ce n'est plus à Los Angeles mais à New York, le sarcome de Kaposi, un cancer de la peau très rare, a été diagnostiqué chez 26 hommes, dont 20 à New York, 8 des malades sont morts, aucun n'a plus de 51 ans, tous sont homosexuels. Est-ce qu'on fait un rapprochement ?
Je pense que c'est très difficile de faire dans un premier temps un rapprochement immédiat et personne ne le fait dans les jours qui viennent. C'est encore une fois un constat et la science ne peut pas relier immédiatement ces deux articles. Malheureusement, souvent, cela a été relié par d'autres personnes, comme parfois des politiques ou des journalistes, pas à bon escient, puisque c'est comme ça qu'a débuté l'histoire du cancer gay, et dont on a beaucoup parlé et qui a beaucoup nuit à la prise en charge et à l'accompagnement des personnes.
Alors justement, fin 81, c'est plus des homosexuels, on a les premiers cas d'usagers de drogue injectable, et mi-82, d'hémophiles et d'haïtiens vivant aux USA. On l'appelle la maladie des 4 H, homosexuel, héroïnomane, hémophile, haïtien. Mais manifestement, personne ne pense encore à un virus.
Alors, jusqu'aux hémophiles, on ne va pas penser à un virus. Ce qui va faire penser à un virus, c'est justement que lorsqu'on va utiliser, qu'on a traité des cas auprès des hémophiles, on sait que le sang et les facteurs de la coagulation qui sont injectés sont souvent filtrés, sont la plupart du temps filtrés. Or, si ces personnes sont infectées, elles sont forcément infectées par quelque chose qui n'est pas une bactérie, parce que la bactérie ne passe pas le filtre. Donc, ça ne peut être qu'un virus. C'est le début de l'idée que ça puisse être un virus.
Alors justement, lors des premières hypothèses virales, on parle du virus LAV, virus associé à la lymphadénopathie en France, de HTLV aux USA. Est-ce le même virus ou sont-ce 2 virus différents ?
C'est complètement le même virus, puisque le HTLV, en l'occurrence, c'était le HTLV-3, qui était dans l'équipe du professeur Gallo. Mais ce qui a été découvert en France, donc c'est le LAV, mais c'est le même virus, exactement le même virus. Il n'y a pas 2 virus différents.
Alors justement, le 20 mai 83, les résultats de l'équipe du professeur Luc Montagnier sont dévoilés. C'est bien un rétrovirus qui est à l'origine du sida.
Absolument. Et c'est quelque chose qui est différent du HTLV-3, pour la bonne différence que le HTLV avait une particularité, ce qui faisait proliférer des cellules du sang, alors que là, dans le cas du VIH, ce qui s'appellera le VIH plus tard, il faisait disparaître des cellules du sang. Donc, du coup, on n'est pas dans le même format. C'est pour ça que Françoise Barécine aussi pense que ce n'est pas le même virus au sens HTLV, parce que c'est pour ça qu'il ne s'appellera pas d'ailleurs HTLV-3, oui. Mais il aura un autre nom.
Alors justement, c'est dramatique, l'épidémie prend de l'ampleur, la maladie tue des milliers de personnes. C'est un steward d'Air Canada, Gaëtan Dugas, qui sera surnommé Patient Zéro. Il meurt de la maladie le 30 mars 84. Il y a aussi ce qu'on va appeler la cohorte de San Francisco.
Absolument. Donc, on a ce début d'épidémie qui va se dérouler sur plusieurs années. Mais le patient zéro, on verra très vite que c'était pas le patient zéro et qu'il y en avait d'autres, comme on le disait précédemment, qui existaient et qui étaient infectés et qu'on n'avait pas découvert.
Alors justement, on dit que c'est le patient zéro, mais il n'est pas le vrai patient zéro, puisqu'en enquêtant sur des échantillons sanguins qui ont été conservés, le premier cas date de 1959, où un homme est mort à Léopoldville, au Congo belge. Un marin norvégien est mort en 76 en Norvège du sida. Est-ce que, d'après vous, il y a d'autres morts qui sont passées sous les radars avant 1981, Michel Borrelli?
Oui, complètement. Et alors là, il y a une histoire passionnante qui a été écrite par un historien, un scientifique, Gromek, Mirko, et qui relate tout ça. C'est une enquête presque policière sur le passé, et on s'aperçoit qu'effectivement, il y avait des foyers infectieux tout au cours de la première partie du XXe siècle. On appellerait des clusters maintenant, mais oui. C'était des endroits, des petits villages, des endroits où des personnes ont été infectées, et bien avant 81 et même avant 59.
Ah oui, alors le premier médicament arrive en 87, un anticancéreux raté sorti en 64, appelé l'AZT.
L'AZT arrive à ce moment-là, effectivement, et on pense que ça va permettre d'empêcher la multiplication des virus. La réalité, c'est que ça marchait bien un certain temps, mais très vite, on s'aperçoit que les effets de l'AZT, le rétrovir, qui était le nom de la spécialité, va être aussi désastreuse parfois que le VIH lui-même, parce que il y a des effets au long cours, et on s'aperçoit très vite que le rétrovir tout seul, l'AZT toute seule, ne va pas être efficace.
Alors justement, le sida tue des stars, ce qui fait parler de la maladie. Rock Hudson, Freddie Mercury, Rudolf Nureyev. Pour Thierry Leluron, on masquera la vraie cause de sa disparition. C'était tabou au milieu des années 80, Michel Borrelli?
Oh, c'était complètement tabou, mais est-ce que ça ne l'est pas encore un peu? Le problème, c'est que c'est assez difficile d'être séropositif et de pouvoir en parler, parce que ça fait toujours peur. Et il ne faut pas banaliser à la fois la maladie, mais il faut pouvoir en parler. Mais à cette époque-là, c'était dramatique, parce qu'on savait que grosso modo, les personnes allaient mourir. Les personnes infectées avaient une durée de vie qui était très limitée, parce que les traitements n'existaient pas. Souvent, elles avaient un passé immunologique difficile, donc du coup, étaient en très mauvais état. Donc oui, c'était tabou. Il fallait pas en parler et c'était assez compliqué dans tous les milieux parce que on voyait bien qu'on n'avait pas beaucoup d'issues.
Il faudra attendre le milieu des années 90 avec en 95-96 les premières trithérapies avec les inhibiteurs de protéase, un pas de géant dans la lutte contre le sida.
Complètement. Là, on s'est aperçu très très vite pour le coup. Vous voyez, quand un médicament fonctionne, ça se voit immédiatement. Et ça peut servir aussi pour la COVID. Mais donc, à l'époque, on peut vous dire que dès que les personnes ont pu prendre ce qu'on appelait les trithérapies, mais en particulier une classe qui était les antiprotéases, des personnes qui n'avaient plus de T4, qui n'avaient plus de défense immunitaire, au bout de quelques semaines, reprenaient vie et parfois sortaient de l'hôpital et avaient un état immunologique amélioré.
Justement, 40 ans après, le sida a fait plus de 40 millions de morts. Quelle est la situation aujourd'hui?
La situation, elle est pas gagné. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on a toujours des personnes qui s'infectent, y compris dans des pays où on parle beaucoup de prévention, où il y a un accès facile à la prévention, au dépistage et au traitement, comme la France. Il y a encore 6000 personnes qui s'infectent par an. Et donc, il y a cette brèche dans la coque qui fait que tant qu'on n'accélère pas des campagnes de prévention, mais aussi d'information autour de nouvelles méthodes, la prophylaxie de pré-exposition, la PrEP, pour essayer de ne pas se contaminer, pour permettre aux personnes aussi de parler de leur vie, de leur sexualité plus facilement, eh bien, effectivement, on aura toujours cette maladie qui continue à évoluer.
Merci beaucoup Michel Bourelli, co-auteur avec Olivier Morel du livre « Une histoire de la lutte contre le sida » publié au Nouveau Monde. C'était il y a 40 ans, le 5 juin 1981, les premiers cas de sida étaient décrits.